Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy.
Bonsoir.
Avec le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec l'ancien secrétaire général de FO. Et ça tombe bien ce soir. Bonsoir, c'est un hasard.
Bonsoir
Jean-Claude Mailly. Et avec Nicolas Domenac, chroniqueur RTL, rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Depuis ce matin, notamment sur RTL, vous entendez le ras-le-bol des habitants des Lilas. Samedi soir, un ado de 13 ans a été tabassé à coups de barre de fer à la limite entre les Lilas et Romainville. Il est décédé hier à l'hôpital. 5 jeunes sont ce soir en garde à vue. Selon le ministère de l'Intérieur, 90 bandes organisées sont répertoriées en France, dont la moitié autour de Paris. Le maire PS des Lilas réclame un plan d'action pour qu'on arrête de banaliser ça. Alors en fait, on en fait assez pour la sécurité de nos quartiers ou pas. Nos cités vont-elles craquer sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, énormément de réactions émues, très différentes. Nassira El-Mohadem du Bondi Blog écrit « Le 17 septembre, Luigi, un ado de 16 ans, mourait dans une fusillade à la Kalachnikov à Saint-Denis. Ce dimanche au Lilas, c'est un minot de 12 ans qui meurt des suites de coups de barre de fer. Nous laissons mourir nos enfants, se désole-t-elle. Maïtena Birabin en déduit que la République a un problème, c'est son devoir de protéger nos enfants partout, tout le temps. À droite, Gadet préfère dénoncer le drame de ces quartiers colonisés par la drogue et l'état de non-droit sur fond de remplacement de population. Éric Ciotti tweet une pensée émue pour cet enfant victime de l'ensauvagement de notre pays. Les guerres barbares doivent être stoppées, dit-il. Zico est d'accord, qui réclame qu'on sévisse et éradique ces problèmes en s'attaquant au noyau familial qui favorise et soutient ces actes criminels. Les allocs, qui lui pensent qu'il faut faire venir l'armée dans ces quartiers chauds, comme il l'avait dit à l'époque, parce que les keufs, franchement, ils servent à rien. Rail brocarde plutôt les pouvoirs publics, autant pour construire des nouveaux commerces, de l'immeuble, de l'argent, il y en a au Lila, autant pour le commissariat, d'un coup ça manque, alors qu'ils doivent aussi contrôler Bagnolet, soupire-t-il. Antoine a une solution, la légalisation, dit-il. Combien de morts avant que l'État se décide à gérer au bénéfice de tous la vente des stupéfiants? Mais Greg, pour finir, a une question que beaucoup ont posée sur les réseaux. Que faisait un enfant de 12 ans dehors sans ses parents dans un tel quartier? Il serait peut-être temps aussi que les parents jouent leur rôle, vous ne croyez pas?
Nicolas Domenac,
oui.
Depuis ce matin, on les entend et les maires sont en colère et un peu démunis surtout.
Ah ouais. Mais que vous dire qu'il ne soit pas une banalité? Ça fait 25 ans qu'on voit la situation se dégrader, la violence se rajeunir, les batailles, les guerres entre les gangs au fond devenir de plus en plus meurtrières et tout le monde a échoué. Et j'avais mis quelques espoirs dans le plan Borloo qui a été renvoyé dans ses buts de manière absolument odieuse.
C'était un rapport, des préconisations qui ont été.
Il y avait une mobilisation d'énergie, il y avait à nouveau quelque chose qui se cristallisait et qui a été au fond comme ça gaspillé sottement. Alors pour ce qui est de, je pense cela étant qu'on a notre responsabilité à nous aussi. Je trouve que la dégradation du débat public participe de la brutalisation généralisée. Que quand je vois des gens s'insulter sur les plateaux, des intellectuels qui étaient brillants autrefois.
Vous parlez de Michel Onfray, pour aller vite.
Non, on parlait d'Onfray, d'autres qui au fond insultent. Emploie des injures, etc. Ils rabaissent le débat public. Moi, je trouve que ça participe de ce qu'ils appellent ensauvagement.
Et donc ?
Et donc, je pense qu'il serait bien de commencer à parler dire autrement et avec plus de générosité et de bienveillance.
Alors, il y a une phrase...
Elisabeth Lévy.
Marc, on m'avait passé la parole. Il y a une phrase de Nicolas que je vais reprendre, mais peut-être pas en lui donnant le même sens, c'est que nous avons notre part de responsabilité. Je voudrais rappeler un petit incident, il n'y a pas longtemps, qui m'a beaucoup frappé. Un gamin... qui est probablement pas un grand voyou, traverse probablement avec son casque sur les oreilles, et il manque de se faire renverser par un chauffeur de bus. Il insulte le chauffeur de bus qui, excédé, lui colle une trompe. Ce qui ne me paraît... En fait, je pense que le chauffeur de bus a eu raison de lui coller une trompe. Et que le mieux qu'il puisse arriver à ce gosse ou à ce jeune, c'est de rencontrer à un moment la limite. C'est-à-dire un type qui vient de te sauver la vie ou de t'éviter un accident parce que lui, il fait gaffe à ce qu'il fait. Je veux dire, tu l'insultes pas. Et c'était en plus très violent comme insulte. C'était vraiment...
On se souvient de l'incident, on se souvient de la mobilisation pour ce chauffeur de bus qui a été sanctionné de façon symbolique.
Oui, mais peut-être de façon symbolique, il aurait plutôt dû... Si vous voulez, rappelez-vous... Oui, rappelez-vous quand Bérou a donné sa taloche à un gamin, tout le monde l'a applaudi. Écoutez, on peut pas
et
dire
si
le matin.
Si il avait roué de coups le gamin, il aurait été décoré, c'est ça.
Oui, bien sûr, c'est tout. Non mais vous rendez surtout pas. Non mais surtout, ne rendez pas le débat caricatural. Ce serait dommage, Nicolas. Franchement, c'est ça que j'ai dit, c'est qu'il fallait qu'il soit roué de coups. Vous avez entendu ça, bon alors arrêtez. C'est ça. J'ai dit qu'il fallait être répressif et si ça vous ennuie pas, je vais quand même le dire sans que vous déformiez tout ce que je dis parce que votre mauvaise foi est pénible. Voilà. Donc j'ai dit qu'il fallait être répressif. Je dis qu'il y a une culture de la violence et je dis par ailleurs que si
on répond pas à la violence par la violence,
il y a une culture de la violence à laquelle on répond à la violence par l'autorité. Or l'autorité, effectivement, si on est tous aujourd'hui, il y a pas un excès d'autorité comme on pouvait le penser dans les années 50 par exemple. Il y a un déficit. Donc voilà. Et par ailleurs sur le diagnostic, et je passe la parole comme ça, je ferai bondir Nicolas jusqu'au prochain tour. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe et que c'est aussi connecté à la crise de l'intégration. Il y a une dimension culturelle dans cette violence qu'il faut pas nier. Ça veut pas
une
dire
dimension culturelle.
Oui. Alors je vais vous parler d'un. Après vous allez dire que je parle trop longtemps et ce sera vrai.
Allez-y.
Je pensais au livre d'un sociologue de gauche qui avait fait scandale à gauche, qui s'appelait Le déni des cultures. Il avait étudié un nombre de populations d'origine immigrée en expliquant, si vous voulez, que c'était des cultures très autoritaires dans les pays d'origine qui s'étaient, avec la démission des pères ou leur mise au chômage, etc., qui étaient devenues des cultures
on
très permissives.
On ne connaît même pas l'histoire de ce jeune garçon. Hein. Comment ? À ce stade, toujours pas l'histoire de ce jeune garçon aujourd'hui.
On parle du climat.
Oui, mais d'accord, mais garçon, ça se trouve,
je vous dis qu'il y a là-dedans, si vous voulez, une dimension. Effectivement, ce ne sont pas seulement des ghettos économiques, ce sont aussi des ghettos culturels. Il y a une dimension qu'il faut affronter en face. Je veux dire, tout simplement parce que si nous devons réussir l'intégration, je veux dire, nous ne pouvons pas laisser tomber là-dessus.
Deux choses, Marc-Olivier.
Patrick,
d'abord, la violence a toujours existé depuis Abel et Caïn, et je suis désolé de vous rappeler qu'en 1900, c'est à 118 ans, il y avait plus d'homicides qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui encore, vous pouvez vérifier dans les statistiques. Ce qui, en revanche, est effectivement très préoccupant, c'est le fait que la violence se rajeunit, comme on pouvait le dire tout à l'heure, et qu'on s'interroge sur le fait de savoir que fait la République. Mais la République, elle doit faire des choses, mais c'est d'abord les parents qui doivent faire des choses. En effet, faire attention à apprendre aux gens plutôt la culture que la violence, et on le sait que la culture, que la violence vient en général quand l'expression n'existe plus et qu'on ne sait pas s'exprimer autrement que comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller s'intégrer dans une bagarre quand on a 12 ans avec des barres de fer, etc. Mais c'était épouvantable parce que sur des sottises, sans doute,
ça a commencé sur les réseaux sociaux, voilà, il semblerait, par des insultes.
Hein.
C'est
nul.
Ça, non ?
Oui, ça envenimé sur les réseaux sociaux.
Mais on est obligé, évidemment, d'avoir une pensée pour ce jeune garçon qui n'a quand même que 12 ans et qui est peut-être certainement pour rien du tout dans cette bagarre. Mais relativisons aussi. La violence, ça existe et pas uniquement chez nous et depuis bien, bien, bien longtemps.
Jean-Claude Mailly, allez, on vous écoute.
Écoutez, moi je pense que ça fait pas mal d'années qu'on explique que dans certains endroits, il y a ce qu'on appelle des zones de non-droit. Les policiers ont du mal à aller, les pompiers se font caillasser, etc. Bon, je pense que, y compris, là c'est un règlement entre bandes. Bon, c'est un gamin qui perd la vie,
on appartient à une bande à 12 ans.
Et la question, c'est-à-dire que la police sait, par les réseaux sociaux, qu'il va y avoir un problème. Sauf qu'elle n'a pas les moyens d'intervenir. Mmh. Or là, il y a une dimension... moi, je considère qu'il peut y avoir des problèmes de temps en temps, mais qu'on a une police républicaine dans notre pays. Et que c'est à elle d'intervenir, y compris en prévention. Et là, ce n'est pas possible, parce que notamment dans ce département, la Seine-Saint-Denis, il y a eu une chute des effectifs. Ils savent qu'il peut y avoir un problème.
Mais vous croyez sincèrement, Jean-Claude, que c'est simplement le manque de moyens
Il y a un manque de moyens. Oui, il y a un manque de moyens pour intervenir. Ah. Ils savaient, moi je sais qu'ils s'attendaient un problème entre ces demandes, parce que les réseaux sociaux évoqués, etc., mais ils n'ont pas été en situation à titre préventif d'intervenir. Voilà.
Cette violence culturelle...
Moi, je ne sais pas.
J'ai dit, il y a une dimension culturelle de non-intégration.
Je ne sais pas l'origine du gamin, etc.
Ce que dénonce, ou ce que précise, ou ce que pointe, ou ce que stigmatise, je ne sais pas, Elisabeth.
J'observe.
Vous avez vos parents, voire vos grands-parents. qui connaissent le chômage, que vous avez une ou deux générations qui sont au chômage, comment vous voyez la société? Et que vous, ça va pas à l'école, etc. Donc il y a une forme de rejet, et si vous gagnez plus d'argent en dilant qu'en allant faire des études, etc., ça peut expliquer certaines choses. Ça ne règle pas tout, qu'on se comprenne bien. Mais il y a vraiment, il y a pas qu'un problème de moyens, mais il y a aussi un problème de moyens.
Je pense que notre tendance aussi à victimiser les délinquants participe quand même même si la violence, même si le niveau d'homicide, cette violence, de cet ensauvagement, alors je sais pas si j'emploierais ce terme-là parce que je le trouve un peu, peut-être un peu raide, j'ai quand même l'impression, je sais pas, par exemple la justice, tous les policiers le disent tout le temps, c'est-à-dire vous avez des gens qui pourrissent la vie d'une cité, si vous voulez, ils peuvent se faire arrêter éventuellement, avoir après être présentés à un juge, ils reviennent pourrir la vie de la cité, donc il y a quand même et franchement sur la question de l'autorité que c'est la même chose pour les profs. Il y a des profs, rappelez-vous ce proviseur qui racontait, si vous voulez, que quand il y avait des parents qui insultaient ou des gamins qui se comportaient vraiment comme des petits voyous, qui frappaient, qui insultaient, etc., le rectorat leur disait faites pas de vagues. Donc il faut quand même que les institutions, si vous voulez, soient un peu du côté de l'ordre.
Continuons sur les responsabilités et ne dédouanons pas les journalistes et les médias d'une manière générale. Parce que c'est vrai que quand vous regardez tout ce qui passe aujourd'hui à la télévision, en film, mais c'est épouvantable. Il n'y a que des flingues qui se sortent à tout moment.
Le rap, il n'y a que ça.
Dès 20h30, dès 21h. Donc, c'est un problème.
On y revient dans un instant.
On refait le monde
dans RTL Soir.
Avec Marc-Olivier Faugé.
Et avec Patrick Poirot-Darvor, Elisabeth Lévy, Jean-Claude Maillet, Nicolas Domenech. Avant nos autres sujets, Nicolas Domenech, un mot. Elisabeth prône pas la répression, mais en tout cas la fermeté. Vous avez fait le constat, mais vous prenez quoi?
Mais non, mais elle prône la fermeté. Nicolas. On a bien vu depuis 30 ans que la fermeté présumée, ou en tout cas proclamée, ou trompétée, les roulements de tambour et de mots n'ont donné rien du tout. Donc il faut prendre ça autrement, et c'est ce que proposait Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire de reprendre avec les associations qui irradient sur place, c'est-à-dire qui ont un maillage social, reprendre le maillage qui est défait, qui est déchiré.
Donc et puis lutter d'un autre. Plutôt de l'éducation, quoi. Ou de l'accompagnement,
mais
de
la
quoi.
Mais ça n'empêche pas la répression. Je termine juste un point quand même. Il y a une éducation à la non-violence qui peut trouver sa place, qui n'existe pas dans notre pays, qui commence à exister dans d'autres, parce que au fond, l'éducation au respect, c'est important et ça n'existe. Guerre.
Mais je crois. Oui, mais c'est. Patrick. Il est en effet capital qu'il y ait de la répression, aussi, de la prévention, bien sûr, de la répression, parce que il est vraisemblable, on va en avoir la confirmation, mais que si les policiers ont été au courant par les réseaux sociaux et ne sont intervenus qu'après coup, c'est parce que leur hiérarchie, très souvent, leur dit n'enflammez pas, n'envenimez pas, montrez-vous discret, etc.
Les policiers,
etc.
Les profs...
Et hélas, les pompiers aussi, ce qui est des choses
pompiers,
absolument invraisemblables. Donc ça, je crois qu'on doit faire nettement comprendre à tout enfant, tout jeune, que la ligne jaune, puis la ligne rouge, c'est capital, que ça ne se franchit pas, voilà, quoi. On respecte un uniforme, on respecte un pompier, on respecte un médecin qui vient vous aider dans votre cité.
Ouais, moi, je suis d'accord, c'est une question, j'appelle d'autorité républicaine, en fait, quoi. Il y a des lois, elles doivent être respectées, peut y avoir de la répression. Maintenant, il faut l'éducation, c'est évident. Maintenant, aussi, les familles ont leurs responsabilités.
C'est ça, peut-être
dans l'éducation,
c'est ça
qu'il faut dire aussi, ouais. C'est pas l'école qui est chargée de l'éducation, elle est chargée de l'enseignement, c'est aussi les familles qui sont, et la société qui est chargée de l'éducation.
Des familles complètement déstructurées,
Ça va de pair. Nicolas parlait du plan Borloo, de ce qu'il fallait faire, etc. Mais ça va de pair, bien entendu. C'est un ensemble qu'il faut. On en parle depuis des années, mais il n'y a pas grand chose.
Attention au cliché quand même, parce qu'Elisabeth tout à l'heure disait ces profs, etc., qui sont. Et ça a changé depuis Blanquer, il faut reconnaître ce qui est. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus laissés tout seuls quand ils sont confrontés à des problèmes.
Je suis d'accord. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Moi,
ils sont mieux accompagnés.
Ils m'ont dit avant, on rasait les murs en salle des profs quand on était connus pour être plutôt des profs. Autoritaire, disons, qu'ils veulent.
Avec de l'autorité.
Et aujourd'hui, on sait qu'on a le soutien de l'institution. Non, mais deux choses très vite. La première, c'est que j'ai compris mon désaccord avec Nicolas et avec Borloo, c'est que je ne crois pas que cette violence soit simplement le fruit de la pauvreté. Donc là-dessus, on a un désaccord.
Pas seulement.
Mais un mot quand je ne crois pas. Deuxièmement,
l'État, enfin les institutions en général, aujourd'hui, des ennemis très puissants. Et là, je parle de l'ensemble de la société. Patrick a parlé de la télé. Je dis, le rap, prenez l'univers du rap. Écoutez, n'importe quelle chanson de rap, c'est hyper violent. Prenez les jeux vidéo. J'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai un peu décroché de l'univers des jeux vidéo, mais c'est, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps.
Oui, mais enfin, vous avez peut-être des gens qui vous expliquent que c'est une forme d'exutoire et c'est pas
peut-être
parce que
c'est une forme d'exutoire. Il n'empêche qu'on baigne dans.
Non, il n'empêche.
Non, Marco, c'est pas vrai par rapport. Il n'empêche qu'on a une espèce d'accoutumance nous-mêmes à des images violentes et que il y a quand même.
Léo Ferré, Brassens se dirait, il nous chantait des chansons qui auraient pu être considérées comme épouvantables, comme semant le feu, super anarchiste.
Ah bon, d'accord. Ils appelaient meurtre. Excuse-moi, je connais Brassens par cœur, je ne me rappelle pas.
Des gendarmes dans mais bien sûr.
Oui, dans le Bory aussi.
Au
viol de gendarmes.
Il va me donner une claque.
Là, c'est une blague. Enfin, allez regarder les paroles de n'importe quel chanteur de rap et vous allez me dire que c'est du Brassens.
Écoutez MC Solar et vous verrez. Allez, dans un instant, Force Ouvrière s'enfonce dans la crise.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchon.
Ce soir à 19h40, on refait le monde avec Patrick Poivre d'Arvor et Elisabeth Lévy, Nicolas Domenac et Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière, sous pression, moins d'une semaine après les révélations du Canard sur le fichage de 126 cadres du syndicat par ses équipes. Pascal Pavageot se retrouve dos au mur. Aujourd'hui, une réunion du bureau de FO s'est tenue sans lui. Une grande majorité des membres de la direction pourraient d'ailleurs réclamer son départ. Mercredi, pour son homologue de la CFDT, Laurent Berger, il devrait démissionner. Alors Pascal Pavageot doit-il quitter ses fonctions ? Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret.
Ah, c'est un fichier qu'il affiche mal, hein, comme titre l'opinion. Le dessinateur CAC vous caricature, Jean-Claude Mailly, en train de lui dire « Mais enfin, ce sont des méthodes de patron voyou. » Pavageot de vous répondre « Attention à ce que tu dis, me traite pas de patron. » Pavageot doit partir, scène Esmeralda. C'est clair, FO doit se reprendre, et très vite, il y a des remaniements urgents à faire à la tête de ce syndicat, confirme Jean-Jacques, comme beaucoup. Quand un syndicat utilise les pires méthodes des entreprises, une démission, c'est le minimum s'il veut pas perdre ses adhérents, qu'on sait de François, le courage de certains grands donneurs de leçons est absolument affligeant, soupire aussi Mathieu. Lorsqu'on n'est pas conforme à l'éthique qu'on s'est fixée, il faut partir, ajoute même Laurent Berger de la CFDT. Tiens, c'est curieux, à quelques mois des élections de fonctionnaires, de voir la CFDT tacler FO, grince Marie, mais il n'y a eu aucune plainte ouverte par la CNIL. Ce dossier existe-t-il seulement vraiment, demande-t-elle. Pascal balaye alors les soutiens militants. Vous rêvez d'un État honnête et juste et vous fermez les yeux sur les méthodes abjectes, dignes de la Stasi de Pavageot, mais quelle hypocrisie. Francis conclut, lui, que c'est un problème interne, laissez-les régler ça entre eux, et ceux qui veulent à tout prix intervenir dans cette affaire, qui commencent par syndiquer.
Allez, on va commencer par vous, évidemment, Jean-Claude Mailly. Est-ce que votre successeur n'est plus en état de rester?
Force Ouvrière traverse une crise qui est une crise grave. Ça, c'est moi, j'ai simplement fait une réaction depuis le début sur cette
ici,
antenne, d'ailleurs,
à midi,
oui, en disant que bon, des fichiers de ce type, c'est inacceptable, c'est intolérable. Enfin, c'est ce que syndicalement on a attaqué à plusieurs reprises dans d'autres entreprises, etc.
Mais une fois qu'on a dit ça, vous connaissez l'état du syndicat et aujourd'hui il est sous pression. Est-ce qu'il doit rester?
Oui, Force Ouvrière est une organisation qui est saine au fond. Donc les instances de l'organisation vont prendre leurs responsabilités. Elles ont commencé à le faire cet après-midi, si je suis bien informé, ce que vous disiez, Marco. Et un bureau confédéral s'est réuni sans le secrétaire général, a majoritairement pris une décision en disant qu'il maintenait, malgré la volonté du secrétaire général, une commission exécutive, qui est une instance élargie, mercredi, et qui saura prendre ses responsabilités. Je crois
ça
va être très difficile pour lui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
On vous sent vraiment triste.
Je suis triste pour l'organisation, oui.
Mais vous pourriez voter si vous étiez dans cette instance.
Je ne vote plus, j'ai plus de mandat.
Si
quoi.
Vous pouviez voter, vous demanderiez son départ.
C'est pas le bureau confédéral qui va voter, c'est une commission exécutive, c'est 35 élus.
Vous seriez dans la commission, vous demandez son départ.
C'est inacceptable, on ne peut pas continuer. Écoutez, on ne peut pas faire des choses qui sont contraires aux valeurs qu'on défend.
C'est donc clair que c'est lui qui a fait ce fichier.
Non, mais je ne dis pas que c'est lui qui a écrit, j'en sais rien, moi. J'ai découvert ça comme tout le monde, faut être franc. Mais il a reconnu l'existence en tous les cas, donc c'est inadmissible en tant que tel.
S'il reste, le syndicat en entier sera considérablement affaibli pour des négociations vraiment importantes qui doivent débuter sur le chômage, retraite, etc. Donc il n'y a pas d'autre solution que son départ, parce que ça, vous évoquiez rapidement, moi j'ai souvenir de plaintes contre IKEA notamment que FO avait déposé pour fichage du personnel.
France Télévisions, IKEA
Donc moi au départ j'ai pas voulu croire, j'ai pensé que c'était une blague, votre ex-formation FO est effectivement saine, elle ne peut pas faire autrement que s'en débarrasser.
Je suis sûr que c'est une organisation saine, qui a des réflexes.
Il va sortir mercredi, faut bien comprendre
que c'est une organisation dont le mot liberté a un vrai sens. La liberté individuelle, la liberté, un département a une grande autonomie, on a beaucoup d'autonomie, on est très décentralisé, et ça, c'est des trucs qui ne passent pas.
Alors, il y a un précédent qui ne vous concerne pas, Force Ouvrière, c'est la CGT, c'est Thierry Lepan, qui a finalement été obligé de démissionner, ce qui n'aurait pas été le cas il y a peut-être 10 ans.
Pour quelque chose d'un peu moins grave, non ?
On ne peut pas juger la gravité, parce que là, moralement, c'est extrêmement choquant. Le fait de savoir si, oui ou non, il y a un enrichissement personnel, bon, c'est un autre sujet. Oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous négociez, vous ne pouvez pas négocier avec, évidemment, un fardeau sur le dos, et on peut vous le reprocher à tout moment. Donc, c'est vrai que la position du patron de FO face au patron du MEDEF, elle est forcément affaiblie si il se sent fragilisé sur ce sujet. Donc, c'est un problème interne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de poser ça devant la justice, mais c'est à eux de régler ce problème, et ça sera fait normalement mercredi, je crois.
Elisabeth ?
Oui, alors moi, je dois vous avouer que je ne connais pas bien le dossier, donc...
Ça ne va pas vous empêcher de parler.
Certainement pas, mais contrairement à vous qui ne parlez que des sujets dont vous êtes un immense spécialiste, alors. Excusez-moi. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est, et alors ça ne remet absolument pas en cause ce que vous avez dit sur le fait en lui-même, mais on sait bien que ce genre d'affaires ne sort pas par hasard, dans le cas de la CGT, on sait bien que ça ne sort pas par hasard. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, derrière, est-ce qu'il y a un enjeu politique, c'est-à-dire on sait très bien que FO est un syndicat beaucoup moins homogène politiquement que les autres grandes centrales, si vous voulez, parce qu'il y a un courant qui est plutôt un courant de droite, il y a un courant trotskiste, c'est une origine un peu compliquée. Donc, ce qui m'intéresse, au-delà de la personne de M. Pabajot et de...
Qu'est-ce qui se joue derrière
aujourd'hui?
Sincèrement, je pense pas que ce soit une question d'orientation de l'organisation. Moi, j'ai vu les derniers textes de l'extérieur maintenant, mais je vois les derniers textes ont été votés à la quasi-unanimité, etc. Je pense pas que ce soit une question d'orientation politique, c'est une question de mode de fonctionnement et de comportement.
Mais est-ce que ça risque de remettre, disons, alors je vais le dire, pose ma question autrement, est-ce que ça va changer? Parce que après tout, il représentait bien l'aile dure, l'aile quasiment cégétiste, si je du syndicat, on peut dire. Est-ce que ça va changer, disons, le cours de ce que va faire FO? Et donc, est-ce que c'est une divine surprise pour le président?
Le secrétaire général d'une organisation comme Force Ouvrière, c'est le porte-parole de l'organisation en général, mais c'est pas lui qui arrête les positions. Les positions sont définies à sens. Je pense vraiment pas que ce soit un problème d'orientation. Après, chacun son expression, etc. C'est vraiment un problème de mode de fonctionnement.
Donc, la ligne un peu dure, c'est le souhait de la base, en fait.
Voté comme ça. Après, vous savez, ça évolue entre
les cas. Vous avez un petit problème, d'ailleurs, à un moment donné, parce que vous étiez trop conciliant, vous, Jean-Claude Maillet, avec une base qui l'était peut-être un peu moins.
Oui, vous savez, certains ont ressorti le tweet que j'ai fait le dernier jour du congrès, où j'avais parlé de duplicité et d'hypocrisie. Bon, je crois que c'est un peu...
S'agissant de mon successeur,
juste une question là-dessus. Commence à comprendre
juste
aujourd'hui.
Une question là-dessus, Jean-Claude Maillet, après je vous laisse la parole, Patrick, et après on va avancer. Mais s'il sort mercredi, est-ce que vous pourriez prendre l'intérim?
Ah non, pas question, non.
Vous avez l'air très heureux comme ça.
Ah non, mais moi je suis passé à autre chose, je le dis clairement.
Vous y retournez pas.
On ne peut pas être et avoir été. Non, c'est exclu.
Ma question, elle était à Jean-Claude Mailly, puisque c'est pas Jean-Claude Mailly qui a fait le coup, il nous l'a dit. Qui est-ce qui a sorti ça? Qui est-ce qui avait intérêt à ce que ça sorte?
Bah écoutez, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas qui a sorti l'existence de ces fichiers, mais selon moi, ça ne peut venir que de l'interne de l'organisation et des gens avec qui il avait des problèmes, peut-être d'anciens proches avec qui il a eu des problèmes.
Allez, on change de sujet dans un instant. Un tour de table autour de l'école à 3 ans, obligatoire.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fauchière.
Allez, on refait le monde avec Elisabeth Lévy, Jean-Claude Mailly, Nicolas Domenech et Patrick Poivre d'Arvor. C'est la mesure clé du projet de loi de Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance, comme il dit, l'école obligatoire dès 3 ans. Objectif, mieux préparer nos enfants aux fondamentaux. Vous saluez cette mesure ou pas, Patrick Poivre d'Arvor?
D'abord, il faut savoir que l'école, depuis 3 ans, depuis toujours, elle n'est pas obligatoire, mais c'est le cas.
90% des enfants ou 95% y vont, mais là, c'est obligatoire.
Les 5% qui en ont le plus besoin qui y vont pas, sans doute.
Qu'elle le soit, c'est un peu formel, en effet, mais si l'école pouvait avoir cette vertu qu'on a évoquée au tout début, à travers le drame des Lilas, cette vertu de pouvoir éduquer, apprendre la tolérance, apprendre la connaissance des autres, des différences de race, etc., Bon, ben, c'est bien, mais c'est pas... voilà, à un moment donné, on est obligé de légiférer, c'est dommage, mais tout naturellement, la plupart des parents envoient leurs enfants dès 3 ans à la maternelle, puis ensuite à l'école.
Ici en France, hein, c'est pas le cas, on a fait tout à l'heure le tour des pays du monde avec Marie Guerrier, c'est pas le cas ailleurs, et ils s'en portent pas plus mal là où ils ne vont pas à l'école.
Les femmes allemandes, elles s'en portent beaucoup plus mal quand elles veulent bosser, hein, ça je peux te le dire. Je vais vous le dire, pardon.
Je considère aussi que c'est une bonne mesure. Hein, l'école est un élément d'intégration important. C'est progressivement de former, pas à 3 ans, mais ça y participe, des hommes et des femmes libres, dotés de l'esprit critique, etc. Moi, c'est ma conception de l'enseignement. Donc, ça démarre de manière obligatoire, même si beaucoup y vont.
Déjà,
3 ans aujourd'hui, c'est évident. Mais Elisabeth a raison. Quand vous regardez la situation en Allemagne, c'est pas le cas. Et c'est beaucoup compliqué, y compris, ça explique beaucoup de temps partiel chez les femmes en Allemagne, etc. Alors, c'est un dossier annexe, mais en tous les cas, que ce soit obligatoire à partir de 3 ans, pour tout le monde, moi, je trouve que c'est bien.
Certains voulaient d'ailleurs, vous en souvenez, dès très tôt, détecter les problèmes peut-être psychiatriques des enfants à la maternelle. Vous en souvenez, sous la présidence Sarkozy. Hein.
C'est autre chose.
Ah, mais bon, ça a été vite oublié.
Ça a été quand même imaginé.
Je me rappelle une de Philo Magui.
Mais le PS proposait, je crois, 2 ans.
L'école à 2 ans ? J'avais pas vu ça.
Oui, Nicolas. Moi, je dis 1 an.
Non, mais moi, je trouve c'est formidable que ce soit dit obligatoire symboliquement. C'est très, très important. Mais je dirais juste un petit mot pour pas en rajouter sur tout ce qu'il a dit de positif. Attention, une des grandes forces de l'école maternelle française, c'était de conserver un côté ludique dans les apprentissages. Alors, si on pouvait nous éviter Alain Finkielkraut à l'école maternelle, plus tard, c'est très bien, c'est formidable. Je suis pour
Finkielkraut.
Mais en maternelle, la tyrannie des apprentissages, je veux dire qu'on les préserve de l'enfance, qu'on leur préserve l'enfance encore un peu, je veux dire, si c'est possible.
Alors, bah justement...
D'accord.
Non, pas complètement. Justement, je crois... Non, mais l'école maternelle s'est fait précisément pour qu'il y ait un sas entre le statut d'enfant et le statut d'élève. C'est fait pour prendre des enfants et les amener à être des élèves qui soient notamment capable de se concentrer plusieurs heures d'affilée. Non, pire que ça. Je veux dire, à coup d'enfermement. Qui soit capable de se concentrer, qui soit capable de rester assis. Or, aujourd'hui, l'école maternelle ne parvient pas à faire ce travail. Donc, c'est très bien de généraliser l'obligation, parce que je crois réellement que ce sont les enfants qui en ont le plus besoin, en fait, qui n'y vont pas. Parce que dans la plupart des familles de centre-ville, etc., les gens envoient leur môme à l'école maternelle. Donc c'est bien de le généraliser, mais il faut aussi peut-être s'intéresser à la formation professeurs des écoles, voilà. Enfin, parce que c'est un vrai boulot. Il s'agit peut-être pas d'enlever complètement le côté ludique, mais il s'agit quand même de commencer les apprentissages. Il y a bien un moment où, si vous voulez, on doit leur apprendre la contrainte.
Et si on mettait Jean-Michel Blanquer à l'intérieur?
C'est pas idiot. J'ajoute que j'ai lu dans la...
Ça fait 15 jours qu'ils en cherchent.
Mais vous ne limitez pas à l'intérieur, faut le mettre partout.
J'ai lu en préparant que les 80% des enfants décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui ensuite vont créer les problèmes dont nous avons parlé au début de l'émission, arrivent au CP qu'ils ont déjà des problèmes. Donc, c'est bien qu'il y a
Vous voulez les détecter dès le CP
je veux les éduquer dès le CP.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h, un gros point sur les inondations. Dans l'autre, je vous rappelle le bilan, 12 morts. Et ensuite, c'est vous, Jacques Pradel, pour l'heure du crime. Bonsoir.
Mais oui, bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire de votre émission.
Alors ce soir, nous revenons à la demande d'un certain nombre d'auditeurs de l'heure du crime. Vous savez qu'on leur propose régulièrement de parler des affaires qui les ont particulièrement marquées. Nous revenons sur l'histoire de Dany Le Prince, condamné à perpétuité par les assises de la Sarthe en 1997 pour le meurtre de son frère Christian et de toute sa famille. Depuis sa condamnation, et toujours d'ailleurs depuis sa libération conditionnelle en 2012, Dany Le Prince ne cesse de clamer son innocence. Il se dit victime d'une erreur judiciaire. Nous ferons le point sur ce dossier complexe et passionnant.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.